Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Mordrain.
Salut à tous.
Et de Dwayne.
Hello.
Petite annonce avant de débuter ce podcast. Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à notre site adoré. Vous pourrez désormais vous connecter sur Game Info sans créer de compte, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser les identifiants de votre compte Steam, de votre compte Twitter ou encore de votre compte Google+. Voilà. Donc non, parce que je sais bien que aujourd'hui les jeunes, ils ont la flemme de créer des comptes, n'est-ce pas? Hein, alors que ça prend 5 minutes. Donc du
ça
coup,
bah, casse les couilles, créer des comptes.
Voilà. Donc du coup, on a décidé que voilà, de vous simplifier un peu la vie. Bon, par contre, si vous avez Facebook, allez vous faire voir, hein, parce que voilà, déjà Facebook c'est un truc pour les vieux aux États-Unis. Hein, serait temps de vous en rendre compte. Ma mère a un compte Facebook, donc il faudrait que vous arrêtiez maintenant, tout de suite, hein, maintenant. Et puis non, comme je n'ai pas de compte Facebook. Et que j'ai un peu la flemme d'en créer un juste pour vous implémenter cette feature, allez vous faire cuire un œuf, voilà.
Oh là là,
cordialement.
Voilà. Donc, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous parlerons de Kickstarter qui a été piraté, de l'évolution de Broforce. J'évoquerai également le Kickstarter de Darkest Dungeon. Du côté de l'actualité en général, nous allons parler du PlayStation Plus, qui marche bien, je crois, Mordrain.
Oui.
Nous évoquerons le prochain jeu des créateurs de Left 4 Dead, qui s'appelle Evolve. Nous enchaînerons ensuite sur Steam, qui ajoute enfin, alléluia, la fourchon taille. Et nous évoquerons aussi la saga Flappy Bird. Attention, j'ai dit saga, il y a King qui va arriver là tout de suite. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Square Enix qui a lancé le site des 25 ans de Saga Frontier. Mmh. Et bizarrement, King n'a rien dit, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Et nous allons enfin terminer sur plein de dates, ça parlera de Halo 5, ça parlera du Nintendo Direct aussi, dont le seul intérêt finalement c'était les dates.
Oui.
Puis voilà, puis le jeu du moment, bien évidemment, la bêta de Titanfall. Allez, c'est parti, donc Mordrain, Kickstarter piraté, que quoi qu'est-ce?
Ouais, bah en fait, en fin de semaine dernière, les inscrits à Kickstarter ont eu la joie de recevoir un petit mail leur disant qu'il y avait eu une faille de sécurité chez Kickstarter et qu'il fallait instamment changer votre mot de passe. Parce que bon, évidemment, Kickstarter fait partie de ces sites où il est plutôt aisé d'enregistrer sa carte bleue. Du coup, voilà, si jamais vous n'avez pas été au courant de cette faille de sécurité, changez votre mot de passe au plus vite sur Kickstarter.
Oui, donc les cartes bleues n'ont pas été prises, n'est-ce pas? Encore heureux, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, comme je disais à mes chers collègues tout à l'heure, ah putain quand même les mecs, tout ce qu'ils ont à faire toute la journée c'est de se gratter les couilles et d'encaisser l'argent. Non, parce que je rappelle quand même que Kickstarter, grosso modo, à part offrir une vitrine, ils offrent rien du tout. Hein. Donc ils sont pas foutus d'avoir une sécurité à peu près potable. Donc parce que là on va pas dans les détails, mais si vous voulez, ils ont notamment au niveau des mots de passe, ils ont une méthode pour les encrypter qui est assez désuète. Ça fait depuis 2005 qu'on dit qu'elle est désuète, mais bon c'est pas grave. Donc en gros, ce qui se passe c'est que les mecs peuvent casser vos mots de passe sans trop saouler. Suffit d'avoir un ordinateur assez puissant quoi. Donc voilà, n'attendez pas. Hein, parce que bon, je veux dire, ok, votre carte bleue pour le moment, elle est safe, mais derrière, il y a quand même votre numéro de téléphone, tout ça. Donc, moi, j'ai pas envie que mon numéro de téléphone se retrouve dans la nature, par exemple.
Ouais.
Voilà. Donc, on va enchaîner sur l'évolution de Broforce. Dwayne, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est quoi déjà Broforce?
Donc, déjà Broforce, voilà. Donc, c'est un jeu qui est fait par les développeurs de Free Live. Donc, c'est un studio sud-africain. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est l'alpha est là depuis un peu plus d'un an. Donc, elle est gratuite, vous pouvez encore la tester. C'est du pixel art en 2D. C'est un jeu d'action qui reprend un peu les codes des films d'action des années 80-90. Donc, il reprend les codes, mais aussi les héros. Donc, on a Brominator, Brogiver. Enfin, c'est le gameplay est assez intéressant dans le sens où c'est un jeu en 2D où on va pouvoir détruire tout l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, on a des ennemis en hauteur, donc on va pouvoir passer en dessous, sortir, donc on est à gauche, ressortir à droite. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc après, même au niveau des personnages, c'est-à-dire qu'on a un gameplay différent pour chaque personnage. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, donc, par exemple, Terminator, donc il a une grosse, une espèce de machine gun assez énorme. On va avoir un autre qui va balancer des couteaux. Donc là, ça fait partie justement des nouveaux personnages. Donc si vous
parce
connaissez...
Parce que c'est ce que j'allais demander. Ouais. Pourquoi tu nous en parles aujourd'hui spécialement? Parce que, en fait, ça fait un moment qu'il existe, ce jeu, il me semble. En tout cas, ouais. Moi, je sais que ça fait... un an, je crois, j'avais eu un truc sur Gamekult, notamment.
Ah, ça fait un
live, ça fait un moment, quoi.
An, ouais. Exactement. Donc là, ils ont justement balancé un trailer avec les updates de février. Donc il y en a pas mal. C'est-à-dire qu'on a, donc, des nouveaux personnages avec, par exemple, celui de Conan ou Machete, si vous connaissez. Donc, qui sont, et c'est vraiment pas mal parce qu'on a, donc là, je pourrais pas dire, mais il y a au moins une, un peu plus d'une dizaine de personnages, et chaque perso a vraiment un gameplay différent, donc avec une attaque spéciale, et c'est vraiment super intéressant. Donc là, on a des niveaux en plus, c'est-à-dire que là, on a l'alpha qui est gratuite, effectivement, qui donne accès à certaines choses, et si vous payez la bêta, donc qui est à 15€, là, on a vraiment accès à un multijoueur, donc là, ils ont ajouté le multi en ligne en coopératif, avec un multi en deathmatch aussi. Là, donc plusieurs niveaux. On a par exemple tout un niveau à la Matrix, donc où on joue Neo avec la possibilité de se propulser dans les airs ou de renvoyer les balles des ennemis. Donc c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. Il y a un humour, enfin un style années 80-90 qui est vraiment assumé, même en interview. Les mecs sont assez marrants, donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Sinon, vous m'avez dit, vous avez pas trop testé encore.
Ah non, pas du tout.
Ça a l'air super marrant comme jeu.
Donc, obligatoire, franchement, testez au moins l'alpha. non, testez au moins l'alpha, c'est gratuit, vous pouvez la prendre sur le site.
Une alpha gratuite? Mon dieu, c'est tellement rare de nos jours.
Oui, l'alpha est gratuite, après c'est vraiment la bêta, si on veut avoir accès à plus de choses, qui est payante, donc là c'est à 15€.
D'accord.
Je pense que c'est encore plus marrant en coopération.
Ah ouais, en coopération.
Avec le Friendly
vraiment,
Fire en plus.
C'est vraiment fun. Ah ouais, c'est vraiment un jeu. On a des ennemis qui sont assez débiles, mais oui. À côté il y a des barils d'explosifs un peu partout, donc il y a moyen de se en Friendly Fire de se buter assez méchamment.
Ok, bah écoute, ça fait vachement envie. Puis comme tu dis, allez-y, c'est gratuit. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Enfin, sérieuses. Disons qu'on va vous parler d'un jeu qui a l'air assez sombre, n'est-ce pas? Ça s'appelle Darkest Dungeon. Alors, grosso modo, c'est un mix entre Lovecraft meets un roguelike, en gros, hein. Parce que vous avez dans ce dungeon crawler en mode roguelike, où vous allez devoir gérer une équipe, donc. Mais contrairement, tu sais, à tous ces dungeon crawlers où finalement tu ne fais que gérer ton équipement et puis basta, eh bien là, dans Darkest Dungeon, tu vas devoir gérer un paramètre en plus que beaucoup de joueurs du jeu de rôle papier Cthulhu adorent, à savoir, eh bien, tout simplement, la santé mentale. Parce que, oui, bizarrement, se balader dans un donjon avec des zombies, avec des créatures, avec des tentacules, enfin bref, okay. c'est pas très rassurant pour la santé mentale des aventuriers qui se baladent là-dedans. Donc, il va y avoir tout un système qui a été mis en place par l'équipe du jeu pour gérer la santé mentale des participants. Sachant que, en fait, tous les membres du groupe ont des faiblesses particulières. Par exemple, il y a le mec qui a la phobie, je sais pas moi, des araignées, tu vois. Mmh. Donc si dans le donjon tu tombes sur une araignée, forcément, il va s'en prendre plein la gueule, quoi. Enfin, voilà, chaque personnage a ses forces et ses faiblesses, sachant que ce système-là, là où il devient intéressant, c'est que si tes persos deviennent vraiment, vraiment cinglés, ils vont commencer à se taper sur la tronche, tu vois, ou ils vont commencer à fuir aussi, c'est une possibilité. Enfin bref, vous l'aurez compris, il va y avoir une phase préparatoire en fait qui va se dérouler en ville où tu vas devoir vraiment t'occuper de tes personnages. Si dans l'aventure précédente ils ont été assez traumatisés, il va falloir s'occuper d'eux, etc. Enfin bref, moi c'est tout un système que je trouve très intéressant. En plus bon, c'est du dungeon crawler avec du loot, etc. Alors là pour le coup c'est assez classique, hein, c'est du roguelike comme on les aime bien. Ça m'intéresse d'autant plus que la direction artistique sur ce jeu.
Ouais, ça claque.
Franchement, c'est paf. C'est dessiné à la main, c'est très comics. Enfin, c'est moi j'adore. Dwayne, t'en penses quoi?
Ouais, franchement, bah déjà au début, comme je te disais, quand j'ai vu le trailer, en fait, ça m'a fait penser à il y avait un autre jeu qui avait le même site, c'était Deadlight, celui de Tequila Works, ceux qui font Rhyme là. Donc c'est vraiment les cinématiques étaient dans le même style. Et puis après, lorsqu'ils ont montré le gameplay, j'ai fait « Ah ouais, c'est pas mal, en fait, de garder ce style un peu comics sur le gameplay. »
Parce que en gros, pour vous visualiser un peu, bon, je vous incite vraiment à aller voir le trailer, c'est en vue de côté, en fait. On voit votre équipe en vue de côté, et les zombies arrivent de l'autre côté. Et t'as une carte en bas à droite où ils montrent... alors, ils ont pas précisé exactement le gameplay, mais j'imagine que tu décideras est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche. Et tu le vois vraiment en vue de côté, et tu vois ce qui se passe dans ton groupe. Ça, c'est très très bien fait, je trouve.
Ouais, donc non, artistiquement, c'est clair que ça claque. Enfin, après, il faut adhérer au style, vu que c'est un... Parce que c'est quelque chose d'assez...
C'est un parti pris graphique assez fort, quoi.
Voilà, un parti pris, voilà. Donc, à côté, au niveau de la mécanique, il faut vraiment que ce soit bien implanté, parce que c'est super intéressant sur le papier, effectivement, le fait d'avoir la santé mentale de chaque membre de l'équipe qui change en fonction... de ses actions. Après, c'est vraiment
sachant qu'aussi, juste pour préciser, il y a aussi d'autres mécaniques du genre certaines classes ne s'entendent pas entre elles, tu vois. Genre le super paladin, il va pas forcément s'entendre avec la sorcière, quoi. Il va peut-être lui taper sur la gueule à un moment s'il juge que c'est pas possible. Donc il faudra aussi prendre ça en compte, tu vois. Enfin, j'adore.
Ouais, donc non, clairement sur le papier c'est super intéressant. Après ce sera à voir comment ils implantent tout ça. Donc dans tous les cas, moi ça m'intéresse. Là, c'est déjà. Je pense pas que je vais backer, comme j'ai déjà pas mal de projets que j'ai backés en ce moment.
Bah, surtout que là, ils demandaient 75 000, ils en sont 180 000, voilà.
Donc,
quoi.
ils ont pas besoin de moi, donc, dans tous les cas, on va attendre un peu. Mais ça paraît super intéressant, autant au niveau, de la part artistique que des mécaniques de jeu.
Mordlaine!
Oui. Moi j'aime bien l'idée de des classes qui s'entendent pas entre elles. Je trouve ça assez cool et ça rajoute de la profondeur en fait à votre équipe et à la façon dont vous construirez votre équipe. Ça je trouve ça assez cool. J'aime bien aussi le design général du jeu. Après moi j'attends d'en voir un petit peu plus parce que j'ai un petit peu peur que ça devienne un peu monotone. Sur le déroulement du jeu, si on ne fait que de la vue de côté, il va falloir qu'il y ait un environnement qui change un petit peu.
Sachant que normalement il y a un scénar. Non, ouais. Je précise.
D'accord. Donc moi j'attends d'avoir un petit peu plus d'infos là-dessus, mais sur le papier c'est déjà un concept assez intéressant à mon goût.
Ouais, en plus, bon, allez voir les stretch goals aussi, je vous incite, ça parle de co-op, notamment, enfin, c'est, à mon avis, ils vont y arriver, les stretch goals, hein, à la vitesse où ça monte, voilà.
Wow.
Bref, moi, vous aurez compris, je suis tombé absolument amoureux de la direction artistique. Et puis même côté gameplay, moi j'adore tous ces jeux, tu sais, où il y a la zizanie qui peut se créer dans le groupe. Je veux dire, c'est pas pour rien que je suis fan de Baldur's Gate. Voilà. Bon, on va passer à la suite. Mordrain, je me tourne vers toi.
Oui.
Alors, apparemment, la petite entreprise de Sony ne connaît pas la crise.
Oui, c'est un peu ça. Ils viennent de confirmer, en fait, le nombre d'abonnés PlayStation Plus. Parce qu'on sait que, bon, ça fait... En fait, finalement, ça n'a pas fait tant de scandale que ça à l'époque où on s'est rendu compte que le multi devenait payant sur PlayStation 4. Et pour cause, ils sont 2,1 millions à s'être abonnés au PlayStation Plus depuis la sortie de la PlayStation 4. Donc voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même 50 euros à l'année, fois 2,1 millions. Voilà, c'est plutôt posé chez Sony. Je pense qu'on se frotte pas mal les mains. Après, faut dire qu'ils ont fait, ils ont beaucoup fait pour que l'offre devienne attractive avec tous ces jeux qui sont donnés sur PS3 et PS Vita et d'autres qui sont réduits grâce au PlayStation Plus. Je pense qu'ils ont vraiment fait un effort là-dessus. En tout cas, bon, j'ai l'impression que la pilule est passée assez facilement du côté des joueurs PlayStation 4 en tout cas.
Dwayne.
Non, mais c'est clair que ça, c'est, moi, je trouve que c'est clairement mérité que ça ait un certain succès, vu qu'à côté, il y a Microsoft qui est à 40 millions, eux, ils font rien du tout, ils sont à 60 euros à l'année. Mmh. Et donc, t'as Sony qui déjà rend effectivement le PS Plus disponible à la fois sur la Vita, sur sur la PS3, sur la PS4. Ensuite, t'as les jeux effectivement offerts sur chacune de ces plateformes tous les mois. À côté, t'as des deals super intéressants. Donc, évidemment que le succès est au rendez-vous et que les gens ne se plaignent pas, vu qu'à côté, il y a un service. Après, il faudra effectivement, parce que donc moi, je ne joue pas souvent en ligne sur PS3, mais en général, les gens se plaignent un peu de la qualité du service face à Microsoft. Donc, si à côté, les serveurs suivent, c'est nickel.
Et, c'est tout ce qu'on demande,
là,
de toute façon.
Après, ils ont encore quelques utilisateurs à rattraper, hein, vu qu'à côté, Microsoft fait des milliards tous les ans.
Oui, mais en tout cas, ça montre quand même qu'avec les 4 millions de PS4 qui ont été vendus depuis le lancement, il y a quand même plus de 50% de la population des joueurs PS4 qui ont franchi le pas, ce qui est quand même assez important.
Bon, après, moi, je vais faire mon relou, hein. Excusez-moi. Ah ouais, non, mais c'est cool, hein. D'accord. Ok. En attendant, moi, je suis désolé. Steam, je paye pas d'abonnement. Le mode en ligne marche bien. J'ai des super promos. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, tout ce que je constate, c'est que si je veux jouer en ligne sur PS4, je ne peux pas parce qu'il faut que je paye. Voilà, c'est tout. je ne rajouterai rien. Alors après, oui, c'est cool. Hein, ils offrent des jeux, etc. Mais si j'en ai rien à secouer, je fais comment? Voilà. Non, mais voilà. Non,
mais t'as tout à fait raison. Après, on en parle juste par rapport à Microsoft. Après, évidemment.
Non, mais c'était pour émettre, tu vois, une voix un peu dissonante parmi ce concert de louanges.
Concrètement, je veux pas que tu prennes ça comme ça. En fait, le truc, c'est que moi, si tu veux, déjà, je suis très surpris que la pilule soit passée aussi facilement en fait auprès des joueurs qui à l'époque disaient non, mais jamais on achètera une PS4 si on doit payer le PlayStation Plus et le multi.
Alors là,
maintenant,
par
en fait,
contre,
force est de constater que tout le monde s'en fout et ils sont prêts à payer,
non,
quoi.
Non, mais Morgan, ça, on le sait depuis la conférence Sony. Enfin, je veux dire, ils ont glissé ça par la conférence Sony. Personne n'a rien dit. Et pourquoi personne n'a rien dit? Pourquoi c'est passé par comme une lettre à la poste? Parce que en face, Microsoft, c'était pire. Donc voilà. Oui. C'est passé comme une lettre à la poste. T'as raison, hein. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Hein. Bon, voilà, je pense qu'on a rien à ajouter. De toute façon, ça sert à rien d'épiloguer. On a dit ce qu'il y avait à dire, n'est-ce pas? Et maintenant, le prochain jeu des créateurs de Left 4 Dead, Dwayne. Alors, ça faisait quand même un moment qu'on les attendait, ceux-là, parce que je veux dire, Left 4 Dead et Left 4 Dead 2, ça commence à dater, quoi. On attendait quelque chose d'un peu neuf. Et du coup, est arrivé Evolve. Et là, bon, je vous avoue que j'ai assisté à l'émission GameCube où le docteur Chocapic a parlé de ce jeu. Et là, oulala, qu'est-ce que ça fait envie.
Ça donne bien envie. Donc, en gros, c'est du multi asymétrique, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une bête, donc un monstre. Là, pour l'instant, ils ont présenté donc un premier monstre qui ressemble un peu à un espèce de gorille. Donc, à côté, sur l'autre équipe, donc il y aura quatre personnes en coopération. Donc on a un assaut qui sera un peu le bourrin de service. À côté, il y aura le médic qui va s'occuper évidemment de soigner ses coéquipiers, et aussi avec elle aura un fusil à longue portée, qui pourra aussi spotter des points faibles sur sur le monstre. Il y a le trappeur qui lui va s'occuper de traquer la bête si si besoin, et le support qu'il a à plusieurs plusieurs techniques pour pouvoir par exemple camoufler l'équipe ou balancer des missiles orbitaux sur le monstre, enfin tout, ouais, donc, tout ce type de choses.
Le but de l'équipe, c'est de choper le monstre, en gros, pendant que le monstre, son but, c'est soit de tuer les personnes dont l'équipe est chargée de protéger, en fait, soit de tuer toute l'équipe.
Voilà, donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura plusieurs approches, c'est-à-dire que le monstre pourra soit... Parce que, en fait... Il y a le monstre à la possibilité, comme le nom l'indique, d'évoluer. Donc il pourra soit justement évoluer en mangeant des d'autres bêtes qu'il y a, enfin la faune ou la flore qu'il y a sur sur le l'aire de jeu,
sachant qu'il prend quand même le risque de se mettre à découvert quand il fait
ça. Ou sinon, justement, rester parce qu'au au départ le monstre est effectivement est assez gros, mais vu que la forêt est dense et l'aire de jeu assez assez énorme, donc il a la possibilité de rester à découvert, sachant qu'il a aussi une marche lente qui lui permet justement de rester à couvert et ne pas se faire repérer, et justement la possibilité d'être en furtif, d'attaquer un à un les personnes de l'équipe, ou sinon voilà évoluer et attaquer frontalement.
C'est un peu le miroir de Left 4 Dead, quoi. Dans Left 4 Dead, surtout dans le 2, les monstres, c'était la chair à canon. Et la team, c'était vraiment le truc super fort, voilà.
C'est ça.
Là, c'est un peu l'inverse, quoi. Le monstre est super balèze, il peut évoluer assez rapidement, et d'ailleurs, si tu le laisses trop évoluer, il y a beaucoup de chances que tu perdes. On retrouve cette chose que j'apprécie beaucoup dans Left 4 Dead, à savoir que si tu ne coopères pas, tu crèves.
C'est ça.
Ouais.
Par contre, ce qui est très intéressant, là, c'est que il y a deux aspects. C'est que si tu aimes la jouer solo, tu joues le monstre. Et si tu aimes jouer en coop, tu joues l'équipe de quatre persos.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est un gros plus par rapport à Left 4 Dead où tu ne pouvais jouer qu'en équipe.
Ouais, moi j'aime bien le... Je trouve qu'en fait, on creuse pas assez le système de multijoueur asymétrique. Souvent, on a du team deathmatch ou du chacun pour soi dans des maps qui sont assez resserrées. Et finalement, voilà, c'est les joueurs contre les joueurs. Et on a tous, grosso modo, les mêmes capacités, bon, sauf, voilà, équipements différents. Mais bon, on est toujours les mêmes, en fait. Le joueur qui est en face de toi, il a potentiellement des armes que tu peux avoir. Et je trouve que voilà ce qu'apportait Left 4 Dead et ce qu'apporte Evolve, c'est justement le fait que l'équipe d'en face n'a pas les mêmes capacités que toi. Et du coup, il va falloir t'adapter à ce qu'il fait. Et d'autant plus avec Evolve où le monstre peut adopter plusieurs stratégies. Voilà, c'est, je pense que ça va être assez marrant. Il y a différentes équipes qui vont sans doute foncer vers le monstre pour éviter qu'il évolue. Et d'autres qui vont essayer justement de jouer l'objectif de protéger leur VIP, on va dire, pour qu'il arrive le plus vite possible au point d'extraction. Et je pense que justement ça peut donner des parties très différentes et d'autant plus intéressantes, en fait, parce que si voilà c'est toujours la même chose au bout d'un moment, sur un mode multijoueur, on finit par s'ennuyer, quoi. Donc moi ça m'intéresse.
Surtout qu'en plus le monstre est tellement supérieur par rapport à l'équipe, par exemple, il peut s'enfuir très facilement. Et en fait, si t'as pas chaque joueur qui joue son rôle dans l'équipe, c'est super chaud de le choper, quoi. Par exemple, il y a le fait que tu vas pouvoir créer un espèce
de dôme,
voilà, qui va enfermer le monstre pour l'empêcher de s'enfuir. Dwayne en parlait tout à l'heure, tu vas pouvoir révéler ses points faibles. Bref, ça veut dire que en gros, si tous les membres de l'équipe ne jouent pas leur rôle, c'est mort, quoi. Et en face de ça, si vraiment ça te plaît pas du tout, enfin, jouer en équipe, c'est pas ton truc, bah, tu peux jouer le monstre. et là tu vas t'amuser à tous les filouter, etc. Enfin, moi j'adore le concept, vraiment, je suis absolument fan, quoi.
Moi, ouais, franchement, c'est super bien pensé. À côté, ils ont l'air de se concentrer vraiment sur le multi. Enfin, apparemment, il n'y a pas de solo prévu. Ça me gêne pas du tout tant que le multi est vraiment travaillé. Déjà, le concept est super bon. Si à côté t'as une variété de monstres, la possibilité d'avoir parce que déjà les classes sont vraiment vraiment séparées, différentes, et chacun a son rôle à jouer. Non, c'est super super intéressant.
Oui, parce que ça, on l'a pas assez dit. Le monstre, pour le moment, on en a vu qu'un, mais a priori, voilà, on pourra choisir parmi un bestiaire de monstres, quoi, avec des capacités propres, etc. Mmh. Donc ça rajoute encore une complexité au gameplay. Et moi, j'attends vraiment beaucoup, beaucoup de ça.
Moi, j'attends le ptérodactyle, surtout. Mmh.
sachant que je suis pas sûr, mais il y aura aussi quelques subtilités au niveau des classes, des persos qu'on peut jouer aussi, il me semble.
Oui, après, ce sera toujours les mêmes classes, mais avec, je pense, des armes différentes. Mais je pense qu'il y aura toujours là, tout de même, les quatre classes, donc assaut, médic.
Ok.
Classique.
Voilà. Donc, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est un jeu qu'on attend beaucoup, d'autant plus que c'est un jeu coop et que on en a pas assez, je trouve. Et ça fait plaisir, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Donc, je vais maintenant vous parler du Jade Function que tout le monde attendait. Non, parce que, soyons honnêtes, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps sur Steam, c'est un petit peu le bordel, la page d'accueil, quoi. Non, mais genre un tout petit peu, quoi. Parce que maintenant, comme à peu près n'importe quel indépendant peut sortir sur Steam, non, parce que on voit qu'ils veulent se débarrasser de Greenlight, si tu veux, parce que pour le coup, il y a plein de jeux qui débarquent. Tu fais, mais ils ont eu tellement de votes que ça, ces jeux-là, en fait. enfin voilà. Disons que c'est un petit peu le cafardeum sur la page d'accueil qui se sont dit, ce serait peut-être bien de régler ce problème. Du coup, ils ont pris une bonne vieille fonction qu'on retrouve sur pas mal de sites, notamment les sites de critique, genre Sens Critique, tu vois, ou ce genre de choses, où tu peux créer des tailles, des catégories de mots-clés, genre, sur Sens Critique, ça pourrait être meilleur film d'action, enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi.
Ouais.
Donc, ils ont décidé d'ajouter cette fonction, et c'est très bien. D'ailleurs, elle est disponible. Alors, je sais pas s'il est accessible à tous. Par contre, si vous êtes en bêta, vous avez accès au compte bêta sur Steam, parce qu'il y a un groupe bêta test sur Steam. Mmh. Je suis sûr que vous y avez accès. Mais par contre, je suis pas sûr que si vous êtes Monsieur Tout le Monde, vous y avez accès, quoi. Donc, allez sur le groupe bêta test de Steam. Il y a d'autres features, dont une dont je vous parlerai bientôt, à savoir la fonction stream d'un PC à l'autre, que j'ai testé, qui marche assez bien d'ailleurs. Donc, voilà, c'est arrivé. Et moi, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est notamment en allant sur la page de Call of Duty Ghost, par exemple, il y avait des choses très intéressantes, genre pigeon, arnaque, des tags assez précis d'ailleurs. Hein. Moi, je suis allé dans les groupes, etc. Ça correspondait bien, je trouvais. bon, après, bon, on est méchant là, mais disons que quand même, je trouve c'est un peu exagéré de mettre Call of Duty, par exemple, dans la même catégorie que, je sais pas moi, le Walking Dead et Survival Instinct, tu vois. Enfin, faut quand même pas exagérer non plus, quoi.
c'est pas tout à fait la même qualité de finition, on va dire.
Ouais, c'est sûr.
On a le droit de ne pas aimer Call of Duty, ouais. Mais après, bon. Enfin, voilà. Après, je sais pas s'ils vont s'amuser à modérer. Moi, je pense que ça sert à rien de modérer. Ce genre de truc, ça serait bien, tu vois, que je pense qu'au fil du temps, les gens ça va se normaliser comme sur n'importe quel site de critique. Ouais. Bah, d'ailleurs, là, dans toutes les catégories que j'ai citées, je crois qu'il restait plus que pigeon. ça devrait partir. C'est, voilà, on est dans la phase de rodage, je pense. Ça finira par s'évacuer. Bon, en tout cas, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt, et j'espère qu'ils rajouteront d'autres fonctions de tri, parce que c'est vrai que Steam, moi, je sais pas ce que vous en pensez, toi, Marren, qui utilise pas mal Steam, est-ce que tu t'y retrouves ces derniers temps?
Non, en fait, je me suis rendu compte que maintenant, j'utilisais beaucoup plus Steam pour regarder la page d'accueil, en fait. Qu'est-ce qui est sur la page d'accueil? Qu'est-ce qui est en promotion? Et du coup, de moi-même, je vais jamais chercher un jeu en fait sur Steam.
Tu vas jamais chercher les nouveautés, quoi, les derniers trucs.
Je vais pas chercher les nouveautés. Ce que je fais, par contre, c'est quand j'ai un jeu qui m'intéresse, je tape juste le titre en fait dans la barre de recherche. Ce qui fait qu'en fait, je vais jamais chercher un style de jeu. Généralement, je me renseigne en amont sur Internet et ensuite, quand j'ai trouvé ma perle rare, je vais sur Steam et j'utilise juste la barre de recherche. Donc finalement, les tags, c'est bien pour découvrir si jamais vous avez vraiment un style de jeu particulier que vous avez affectionné.
Il y a des gens qui aiment farfouiller, tu sais. Moi, je suis comme ça, par exemple. Ouais. Ça m'arrive souvent d'aller sur Steam, de regarder ce qui sort. Ouais. Ah tiens, je connais pas ça. Je vais chercher. Ouais. C'est un bon moyen d'exposition. Le problème, c'est que je trouve ces derniers temps, c'est devenu un peu trop. Il y a trop.
Ouais.
Dwayne.
Ouais, non, c'est clair. Enfin, moi, effectivement, j'aime bien aussi chercher de temps en temps sur Steam, voir un peu ce qui est sorti. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux. Parce que j'aime bien les jeux indés, mais il y a quand même des moments où t'as une vingtaine de trucs tous les jours qui sortent.
Donc
qui,
tu peux douter légitimement de la qualité, ouais, qu'on va dire.
Franchement, déjà rien que l'image du jeu te donne pas envie. Donc, ouais. Donc
déjà ça, c'est chaud.
Le trailer, voilà. Ça, il y a des trucs un peu douteux. Et effectivement, mettre deux trois tags avec un style de prédilection, ça peut être intéressant.
Voilà. Dwayne, tiens, tu vas garder la parole. La Flappy Bird, c'est quoi Flappy Bird? C'est quoi la polémique qu'il y a eu autour
oui,
de ce
voilà,
machin?
Donc, on va la faire rapide. Donc, c'est Flappy Bird, c'est un jeu tout pourri qui est arrivé donc en mai 2013 sur l'App Store d'Apple et ensuite sur Google Play. Donc là où la polémique en fait a enflé, c'est quand vers novembre décembre 2013, il y a eu un pic en fait d'un seul coup et le jeu en fait est arrivé dans les premières places, que ce soit sur Google Play ou sur l'App Store. Donc beaucoup ont dit qu'il y a eu une intervention humaine ou de l'achat de critique, voilà, peut-être, ou surtout l'hypothèse d'une intervention humaine avec des bots ou autre, parce que vraiment c'est arrivé pour deux des jeux parce que c'est un jeune vietnamien en fait qui a créé ce jeu, ouais. Et c'est arrivé pour un autre de ces jeux aussi qui est arrivé vers avril et qui vers décembre 2013 a fait que monter d'un seul coup, effectivement. Donc là où il y a eu la polémique, c'est déjà à cause de ça, en plus du fait que le jeu est vraiment pourri, mais...
Alors, juste explique un petit peu le principe.
Oui, voilà, j'explique un peu le principe. C'est-à-dire qu'on a un oiseau, on doit taper sur l'écran pour pouvoir le faire monter ou descendre, et il ne faut pas qu'il touche des tuyaux qui sont exactement les tuyaux de Mario, quoi, les tuyaux verts que l'on a dans Mario. À côté de ça, le gameplay est exactement le même. Le gameplay, vraiment le style en lui-même, est exactement celui d'un autre jeu, donc d'un français d'ailleurs.
Ah
qui
non,
s'appelle...
alors là, c'est justement là, on va pas être d'accord. Le gameplay n'a strictement rien à voir. Là où il faisait la comparaison, c'est sur les images où il y avait des cactus qui partaient d'en haut et d'en bas,
oui,
et où t'avais oui, mais le gameplay, par contre, quand tu joues au jeu, ça n'a strictement rien à voir. On peut toute cette polémique, tu vois, j'ai pas trop suivi, mais par contre j'ai suivi l'histoire de plagiat soi-disant. Je suis désolé, à part que ce soit un piaf, le gameplay, ça n'a juste rien à voir, quoi. Donc à un moment donné, voilà, quoi.
Oui, dans tous les cas, au niveau du style, effectivement, ça ressemble assez. Après, pour quelle raison il a pu monter après, c'est que pas mal de gens ont loué, on va dire, sa difficulté, alors que je pense plutôt parce que quand il y a eu la polémique, bon, je l'ai pris juste pour tester très rapidement, mais il y a vraiment des moments où tu tapes et puis
c'est juste que le jeu est mal branlé, en fait.
Voilà, le jeu est mal fait et il y a des moments où t'es toujours dans les airs et donc le jeu a décidé que t'as touché un tuyau, quoi. Donc voilà, c'est un jeu assez mal branlé qui a eu un succès à côté. Donc le créateur s'est fait harceler pendant quelques jours et ensuite a retiré son application. Comme quoi, je pense, parce qu'il se faisait quand même 50 000 dollars par jour avec l'appli.
Ouais, surtout qu'il vit au Vietnam. Bon, pour avoir connu quelqu'un qui a vécu là-bas, avec ce qu'il a gagné, je pense qu'il va très bien vivre.
Voilà, donc à côté,
grâce aux pubs en fait qui apparaissent dans
Flappy
Bird.
Grâce aux pubs, effectivement. Donc après, pour quelle raison il l'a retiré, si c'est uniquement parce qu'il se faisait harceler, je sais pas, parce qu'à
à côté, tu sais, il y a des poursuites. Après, moi, je veux pas le défendre, hein, mais ouais. Je sais pas si t'imagines reçoit des insultes tous les jours, ça doit pas être agréable non plus, quoi. Quand même.
Sachant qu'il y avait cette histoire de plagiat là, enfin présumée avec ce jeu français, mais faut savoir aussi que Flappy Bird utilise des tuyaux verts qui ressemblent à s'y méprendre à ceux de Mario. Bon, après, est-ce que c'est juste ça qui motive son geste? Bon, enfin, c'est pas forcément très clair, surtout que lui sur Twitter est très nébuleux sur ses motivations. Il dit juste qu'il pouvait plus le garder, enfin que voilà, il en avait tout simplement marre. Après, faut savoir que ça a aussi motivé un certain nombre de téléchargements supplémentaires sur l'App Store et sur Google Play Store, dans la mesure où quand on dit qu'un jeu termine, enfin, ne sera plus disponible en téléchargement dans 2 jours, bah, que font les gens? Ils disent, oh mon dieu, il faut vite que je le télécharge. Donc, ça fait des jeux qui continuent à tourner sur des smartphones.
Est-ce que ça générait surtout, c'est plein de clones?
Oui. Et donc, juste pour terminer, les gens, donc, il y a d'autant plus de gens qui ont téléchargé le jeu et d'autant plus de gens qui continuent à générer de la pub. Donc finalement, voilà, le développeur continue à gagner, si ce n'est pas $50,000 par jour, c'est peut-être plus. Donc bon, voilà, je pense qu'il n'est pas non plus trop à plaindre, le développeur.
Ouais.
Voilà, bon, en tout cas, moi ça me rappelle pourquoi je ne joue pas sur mobile. Enfin, non, je suis méchant, parce que ça serait comme juger le monde du mobile, ça serait comme juger, si tu veux, le jeu vidéo sur console par la lorgnière de Call of Duty, tu vois. Enfin,
c'est ça.
C'est un peu exagéré, mais si tu veux, moi c'est un modèle économique, en tout cas, que je trouve fondamentalement malsain, quoi. Parce que c'est basé sur la pub. T'as tout intérêt à magouiller pour être dans les premiers, parce qu'en fait tu gagnes tellement peu d'argent avec les jeux, tu vois, qu'il faut absolument que tu fasses de la quantité, en fait. Donc tu es incité à, par tous les moyens possibles, à vendre le plus de jeux possible, à mettre le plus de moyens douteux en place pour gagner de l'argent. Moi, c'est un modèle économique que je trouve fondamentalement malsain, et ça vient aussi des utilisateurs qui refusent de payer X euros pour un jeu, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait la semaine dernière, D'ailleurs, on n'a pas eu le podcast cette dernière, excusez-nous, mais voilà, quelques petits soucis, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 2 semaines, on parlait des Steam Early Access, etc. Est-ce qu'il fallait que ça se généralise, ou est-ce qu'il fallait que les développeurs trouvent un autre modèle économique à cause des soldes? Il faut bien voir ça, c'est qu'on n'a pas non plus intérêt sur PC et compagnie à avoir des jeux qui deviennent trop peu chers, parce qu'après, on va se retrouver avec la même chose que sur mobile, quoi. À savoir des jeux où on va avoir des pubs intégrées, ce genre de conneries, quoi. Dwayne ?
Ouais. Après, le truc, c'est que ça fonctionne beaucoup, parce que je voyais, il y a aussi un autre jeu qui s'appelle Clash of Clans, et lui, il génère apparemment même plus que, enfin, sur l'année 2013, pour donner un ordre d'idée, le studio avec 2 jeux a généré plus d'1 milliard de bénéfices, et là ils sont cotés, enfin la société est cotée à 3 milliards, donc à côté il y a quand même des success stories assez sachant qu'on parle de petits jeux de gestion studios où ils sont à 5-6, quoi. Donc
on parle aussi de free to play et de pay to win.
Exactement. Non, mais c'est surtout ça, quoi. C'est ça qui est super embêtant. C'est pour ça que franchement, comme tu dis, faut pas qu'un modèle pareil se développe sur PC, sinon c'est vraiment le drame, quoi, parce que franchement c'est vraiment là le modèle. Ça me fait penser, enfin très rapidement, je suis un peu hors sujet, mais ça me fait penser à un article qui date de quelques années avec Jonathan Blow, qui parlait justement de tous ces jeux Farmville, tout ça, qui sont vraiment là pour engranger de l'argent uniquement et pas du tout là pour le joueur, quoi. C'est calqué sur des travaux de Pavlov avec des souris. Donc comment faire justement la personne acheter, enfin rester sur le jeu et continuer à dépenser de l'argent, quoi.
D'ailleurs, juste, je voudrais revenir sur une affaire qu'on n'avait pas évoquée, que je voulais évoquer la semaine dernière, mais qu'on n'a pas pu. C'est à propos de King, Candy Crush, etc. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une autre affaire cette semaine, enfin ouais. cette semaine,
c'est
la semaine dernière.
La lettre ouverte.
Oui, c'est la lettre ouverte du gars qui avait créé un jeu avant King qui ressemblait étrangement à Candy Crush. Où il y avait Candy dedans, je crois, dans le titre. Et d'ailleurs, très paradoxalement, on s'est rendu compte qu'en fait, King n'avait pas le copyright sur certains mots. Enfin, que, en tout cas, le mec qui avait créé ce jeu avant eux, les empêchait d'avoir ce copyright-là. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces petits salopards? Ils ont racheté une licence qui datait d'avant la licence du gars.
Oui, c'est le jeu qu'ils ont racheté avant, ça s'appelait Candy Crushers. Ouais, et ça a vraiment rien à voir avec avec Candy Crush, quoi.
Voilà. Et donc, ils ont racheté ça pourquoi? Pour faire sauter le copyright du gars, en fait. Et sauf que, alors on pourrait me dire, mais pourquoi vous défendez ce gars-là alors que vous cassiez du sucre il y a deux semaines sur King? Eh bien, pour une raison simple, c'est que ce gars-là, son jeu, bizarrement, il ressemble étrangement à Candy Crush. Ouais. Et que, bizarrement, ce jeu-là, il date d'avant Candy Crush. Mmh. Et que, pour le coup, il a toutes les raisons d'empêcher King de poser un copyright là-dessus. C'est légitime. Parce que, il s'agit pas de dire que le copyright, c'est mal point. Il y a des il y a des cas où c'est légitime de se défendre. Et ce cas-là, ça me paraît légitime parce que le Candy Crush est clairement un copier-coller de ce jeu-là, qu'il y a Candy dans le titre, et que ils sont en train d'étouffer un mec sur le plan juridique. Un mec qui a pas une grosse société, quoi, en plus, tu vois.
Bah ouais.
Ils sont en train de lui faire mordre la poussière pour défendre leurs intérêts à la con. Et moi, tu vois, cette société, c'est vraiment, c'est des pourritures, mais voilà. Je vais pas répéter ce que j'ai dit il y a deux semaines, mais j'espère vraiment qu'ils vont crever la gueule ouverte. C'est vraiment des enflures, mais de première, quoi. Voilà. Donc, je voulais, c'était mon petit coup de gueule de la semaine que je voulais,
Ouais, non, mais t'as raison. Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est abusé. On dirait qu'ils veulent juste faire chier le monde parce que c'est, c'est vraiment un petit jeu qui est sorti avant eux, en plus du fait qu'ils le copient. Non, franchement, je comprends même plus, là, je vois même plus où ils veulent en venir, quoi.
Parce que clairement, là, ils peuvent gagner, justement, parce qu'ils ont de la, ils ont de la thune, en fait. Ils ont juste de plus de thunes que lui,
voilà.
Tout simplement.
Ils ont plus de thunes que lui, ils ont racheté une licence qui date d'avant, ils font sauter copyright. Franchement, s'ils arrivent à le faire sauter, moi, je suis deg, quoi. Parce que, je veux dire, c'est tellement obvious, tu vois, qu'ils font ça juste pour faire sauter le copyright et qu'ils abusent de leur position, tu vois, pour si ça passe, franchement, c'est juste absolument immonde. Ça me fait gerber, quoi. C'est une société vraiment qui me fait gerber. C'est ben voilà. Bon, je propose qu'on se calme et qu'on passe à la suite.
Ouais.
Et là, on va bien rire pour le coup, mais avant de bien rire quand même, et on va évoquer Halo.
Ouais.
Puis après, on parlera du Nintendo Direct.
Ouais, alors c'est la voix du Master Chief en fait qui a évoqué le futur d'Halo et notamment Halo 5 en parlant du fait qu'il sortirait probablement en 2015. Donc bon, évidemment, il n'a pas toutes les infos de la part de Microsoft, mais bon, ça reste quand même une indication assez importante. Et il a aussi évoqué le fait que Halo 2 Anniversary pourrait sortir très bientôt. Donc voilà. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui peut en savoir quand même un certain nombre, avoir un certain nombre d'informations, puisque bon, voilà, c'est lui qui double le Master Chief, donc il a probablement déjà travaillé sur ces projets-là. Donc voilà, à voir si Microsoft confirme ou non ce qu'il vient de nous dire. Ensuite, sur les autres dates, la plupart des dates concernent en fait le Nintendo Direct qui a eu lieu très tard cette semaine. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il le diffusait à 23h, mais bon, peu importe. Première chose, ce sont les jeux 3DS. On va avoir le droit à Yoshi's New Island sur 3DS le 14 mars. Ça sera suivi de Mario Golf Tour, donc le jeu de golf sur 3DS le 2 mai. Après, on aura Kirby Triple Deluxe 16 mai et enfin le très attendu Mario Kart 8 qui arrivera le 30 mai. En dehors de ça, malheureusement, janvier-février, non, que dalle.
D'accord. Merci.
Bon, cela dit, j'ai envie de dire le mois de février est quasiment terminé, donc. Mais bon, peu importe. Je pense qu'on les aurait, enfin, on en aurait entendu avant s'il y avait des jeux 3DS ou Wii U qui sortaient en février. Sinon,
non, parce que je veux dire mars la Wii U, enfin voilà, ouais, on peut partir par là, si ou même avril la Wii U, il se passe quoi?
je crois. Ah non, c'est printemps. ils nous ont dit qu'au printemps, les jeux GBA arriveraient sur Virtual Console.
Oh, super. Non.
Voilà. Oh, donc là, là. Bon, on attend toujours les belles annonces qui nous ont prévues. Enfin, on nous en avait parlé d'ailleurs il y a pas très très longtemps.
Attends, Nintendo disait
2014. On sait toujours pas quand.
Ah, on sait toujours pas quand. D'accord.
donc voilà. En dehors de ça, on a eu quelques vidéos de gameplay quand même sur Bayonetta 2, sur X. Et sur pas grand chose d'autre en dehors des jeux 3DS, si Mario Kart 8 quand même qui a l'air quand même super sympa. Hein. C'est bon, j'espère quand même que c'est un jeu qui pourra faire que la Wii U va se requinquer. Mais bon, enfin voilà, il va falloir tout donner là-dessus. Sinon, malheureusement, la Wii U a une mauvaise nouvelle aussi cette semaine. C'est Watch Dogs qui est désormais reporté par Ubisoft. Bon. C'est bizarre, mais à chaque fois que je vois reporter
non mais sur la Wii U,
je vois simplement annuler en fait. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. J'ai un vieux doute, comme quoi la version Wii U de Watch Dogs sortira juste jamais. Mais bon, bref, sachant que Watch Dogs sur les autres consoles sortira entre avril et juin, ça a été confirmé par Ubisoft. Voilà, c'est tout pour les dates.
Ouais, bon, alors juste pour résumer les vidéos qu'on a pu voir durant le Nintendo Direct, en gros, projet X, si vous avez aimé Xenoblade, je pense que vous aimerez celui-là. Si vous avez pas aimé Xenoblade, je pense que vous allez pas aimer celui-là. ça a l'air grosso modo d'être exactement le même système de combat, sauf qu'il y a des mechas en plus. Donc moi, je vais adorer sûrement. Ensuite, Bayonetta 2, bon voilà, enfin j'en ai dit tout le bien que j'en pensais à la Paris Games Week.
Je peux d'ailleurs répéter la même chose que ce que tu viens de dire sur X, hein. Si vous avez aimé Bayonetta, vous aimerez Bayonetta 2. Si vous n'avez pas aimé Bayonetta, c'est même pas la peine de penser à Bayonetta 2.
Voilà, exactement. Et sinon, bah, je me demande toujours ce qui branle chez Nintendo, s'ils ont bien réalisé la situation dans laquelle ils étaient. Je sais pas, ils ont fait une communication de crise il y a 2 semaines. On a l'impression que à part ça, tout va bien. En fait, en gros, on attend la sortie de Mario Kart et puis voilà quoi.
C'est ça.
Grosso modo, ils ont passé leur temps en dehors des dates, là, à annoncer des personnages de Super Smash Bros, c'est ce genre de conneries, quoi. Enfin, ouais. Sérieux, est-ce que ça vaut le coup de faire un Nintendo Direct pour ça? Franchement, parce que, je veux dire, en dehors des passionnés, qui regarde ça? Mais franchement, qui regarde un Nintendo Direct en dehors des passionnés de jeux vidéo? Est-ce que les passionnés de jeux vidéo, ça les intéresse vraiment d'avoir le roster de Super Smash Bros? En tout cas, est-ce que ça les intéresse de regarder un Nintendo Direct à 23h pour ça, quoi, merde?
Ouais.
Non, après, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Enfin, je regardais sur le stream, il y avait pas mal de monde. Le problème, c'est qu'il se passe rien, quoi. Tu restes là à 23h.
Please,
tu regardes ça. Moi, j'étais juste là avec un regard circonspect pendant je sais pas combien de temps ça a duré. J'ai eu l'impression que ça a duré 2 heures d'ailleurs, alors que je crois que c'était 30 minutes, mais
Ah, parce que vous l'avez vraiment regardé, vous deux?
Ah non, moi j'ai pas regardé.
Ah d'accord.
Ouais, moi, j'ai arrêté de regarder les Nintendo Direct.
Dwayne s'est sacrifié pour la rédaction en fait.
Non, c'est que quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu qu'il y avait le Nintendo Direct, donc je lui ai dit allez, je vais voir qu'est-ce qui se passe, donc voilà quoi. C'est un peu dur quoi de regarder ça. Tu dis allez, il va annoncer quand même un truc. À chaque fois, tu sais, j'y crois un petit peu. Donc les Nintendo Direct en général, je regarde pas, mais là je suis tombé dessus, donc j'ai dit allez, on y croit et puis ça s'est terminé et voilà quoi. Ouais. Il y a 4 minutes qui m'ont intéressé quoi, le gameplay de Bayonetta 2 et celui de X, sinon le reste pour annoncer les trucs genre Game Boy Advance, console virtuelle, tout ça. Je veux dire, il y a pas besoin d'un Nintendo Direct, quoi.
Ouais, surtout qu'en plus, nous en Europe, on a eu une qualité de vidéo absolument pérave. Regardez le stream européen comparé à celui qu'ils ont eu les Américains sur YouTube, etc.
Ah oui, moi j'ai regardé sur YouTube. Moi, j'arrivais même pas à regarder sur Ustream. C'était
la vidéo, je regardais des diaporamas, c'était absolument quoi. Merdique. J'ai eu des potes qui sont restés levés jusqu'à 23h pour regarder ça. Ils m'ont dit qu'ils sont dû passer sur la partie YouTube parce que Ustream, c'était de la merde quoi.
C'est pas que c'était merdique, c'est que ça passait pas du tout.
Non mais chez eux ça passait. Non mais tu vois, chez eux ça passait, mais ouais. La qualité d'image était absolument voilà. Ouais. Enfin, c'était pourri de chez pourri quoi. Donc enfin franchement Nintendo, quoi. Nintendo. On l'a suffisamment répété, je veux dire, on va pas enfoncer clou, n'est-ce pas? Et puis bon, Watch Dogs, hein, moi, franchement, j'y crois plus. Ouais, mais voilà. Bon! allez, c'est tout. On va passer au jeu du moment. Mm-hmm. Hein. Et le jeu du moment, c'est la bêta. C'est une bêta qui est accessible à tous cette semaine. Et c'est celle du très attendu FPS Titanfall.
Titanfall.
J'aurais dû être là. Ils nous traiteront de maraudeurs, de terroristes, ou pire. Pardon. Je t'avais promis de ne jamais remonter dans ces foutues machines. Mais si tu me regardes, j'espère que tu comprendras. Nous avons tout abandonné. Mais notre arrivée n'était que le début. Tu disais que ce serait dur de repartir à zéro. Je ne t'ai pas écouté. Tu disais que d'autres viendraient. Mais j'ai cru qu'ils nous laisseraient tranquilles. Je me trompais. Mais je ne veux plus fuir. Cette terre est à nous. Cette terre est à nous. Et je me battrai pour elle.
Donc Titanfall, hein, on reprend rapidement, donc 6 contre 6, c'est un FPS, des anciens de Infinity Ward, enfin pas mal d'anciens de Infinity Ward, qui sont les co-créateurs de Call of Duty.
Grosso modo, on va résumer, c'est le dynamisme de Call of avec des jetpacks, avec des mechas que tu peux invoquer... Et tout le monde se tape sur la gueule en 6 contre 6. Alors, Dwayne, je voudrais commencer par une question très simple. Là, comme ça, je me rappelle notamment de notre très cher Mikael, qui critiquait le jeu à la base parce qu'il trouvait que ça ressemblait méchamment à Call of Duty. Toi, je pense pas qu'on peut te soupçonner d'être un super grand fan de Call of Duty. Est-ce que, non, pour toi, c'est quelque chose de vraiment différent? Est-ce que, notamment, d'une part, les jetpacks et d'autre part, les titans, apporte quelque chose de vraiment différent au jeu? Est-ce que le jeu est aussi péchu, comme peuvent certains le dire, qu'un Unreal Tournament, par exemple, ou ce genre de choses?
Voilà, donc là, déjà, au niveau, pour les fans de... Enfin, les gens qui n'aiment pas Call of Duty, moi, perso, je dé... Enfin, c'est pas que je déteste, mais...
c'est pas ta cam, quoi.
Voilà, c'est pas ma cam à la base. J'ai testé quelques fois, je me suis fait insulter par les petits Britanniques, très bien, très bien. Et donc voilà, bah, oui, c'est surtout ça, hein, que t'as sur Call of Duty. Franchement, là, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que je me suis éclaté pendant enfin pendant quelques heures maintenant. Déjà, on a donc à pied, on est effectivement en jetpack. Donc visuellement, c'est ça casse pas. On est vraiment sur de la 360 évoluée. C'est pas, on n'est pas vraiment dans de la next gen. Par contre, au niveau de la fluidité, surtout avec le jetpack, le fait qu'on ait les doubles sauts, le fait de pouvoir courir sur les murs, la verticalité des maps, c'est-à-dire que les maps ont un très bon équilibre entre la verticalité, le, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas trop grandes, mais en même temps pas trop petites, les titans peuvent aisément se déplacer. Donc, après, les deux gameplays ont le mérite d'être différents, et c'est vraiment le premier jeu en multi où il y a des moments où c'est jubilatoire, quoi. Je donne un exemple. Il y a un moment où j'étais dans mon titan, donc je suis en train de dégommer des mecs au sol. À côté, il y a ton HUD qui te dit oui, rodéo, donc ça veut dire qu'il y a un mec qui est monté sur ton titan et qui commence à te tirer dessus. Donc il te dit de sortir de ton titan, donc moi je suis sorti du titan, à côté le mec il est sur, il est toujours au-dessus de ton titan, donc tu le shootes, tu le tues, tu remontes dans ton titan, enfin il y a des phases comme ça qui sont énormes, ou sinon à un moment où les exécutions de titan aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ton titan va se faire défoncer, donc à côté tu vas te faire expulser en l'air, donc on va dire aller à 150 mètres au-dessus du sol. À côté, tu retombes, et si t'as... Donc ça, je l'ai fait 2 ou 3 fois, c'était vraiment jouissif, c'est-à-dire que t'es à 150 mètres, tu retombes sur un autre titan et tu le détruis, mais t'as juste un sentiment jouissif. Enfin, t'as, t'as pas mal de moments comme ça, surtout qui a, comme on l'avait dit, aucun endroit où tu peux te cacher, spotter. C'est vraiment assez
c'est
assez
pas un
nerveux,
jeu de campouse, quoi.
Voilà, c'est pas un jeu où tu vas camper à un endroit. Donc toi Mordren, je sais pas ce que t'en as pensé globalement.
Bon, vous le savez, je suis vraiment vraiment pas fan de Call of Duty. Et pour le coup, c'est le jeu m'a scotché en fait, parce que comme tu le disais, c'est vraiment d'une fluidité assez incroyable. Et autant le gameplay du Titan que celui du pilote avec le jetpack et tout, sont particulièrement bien trouvés, je trouve, et bien léchés. Ça va à une vitesse assez assez incroyable. Moi, j'adore. Le fait que voilà, tous les endroits de la map, tu peux concrètement te mettre dessus quand t'es un pilote, quoi. Et je trouve que ça ajoute vraiment un aspect de gameplay plus poussé en fait au mode multijoueur, parce que concrètement en fait sur une map classique de Call of Duty, ben voilà, tout le monde reste à peu près au même niveau. Bon, tu peux monter de temps en temps dans un petit immeuble, quoi. Mais là, pour le coup, dans Titanfall, tu as vraiment le choix de là où tu vas et tu peux concrètement aller partout. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont bien travaillé leur le drop en fait du Titan. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences la partie du mode multijoueur, t'as 2 minutes 30 ou 3 minutes avant l'arrivée de ton Titan, que tu peux commander en fait en frappe orbitale. Plus tu tues des gens, donc des pilotes ou des IA, plus ce temps se réduit. C'est-à-dire que plus t'es fort, plus t'auras ton Titan rapidement. Et du coup, ça peut vraiment déséquilibrer la partie dans ton sens, en fait, si t'arrives à déjà, un, ne pas mourir, et deux, enchaîner les frags. Et ça peut être très intéressant de réussir à foncer au contact et de réussir à avoir un Titan très rapidement, parce que forcément, voilà, le Titan est bien plus puissant qu'un piéton, mais le pilote a quand même des armes assez assez intéressantes pour éliminer un Titan. Donc c'est voilà, le match est pas forcément si déséquilibré que ça. Il y a moyen de faire quelque chose. Alors évidemment, en 1 contre 1, sur une plaine, le Titan va forcément gagner.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Par contre, si le pilote a un petit peu de jugeote, il peut réussir à se cacher, dodger un petit peu les attaques du Titan, et ça peut devenir très facilement équilibré de ce côté-là. Et puis les batailles de Titans sont assez folles. Le seul petit bémol que j'aurais, c'est quand il y a vraiment beaucoup de Titans au même endroit, notamment
Ouais, il y a un manque de lisibilité.
Manque de lisibilité et manque de facilité de mouvement, parce que forcément, si t'es dans une ruelle et t'as un Titan avec toi qui est dans ton équipe et deux autres Titans en face de l'équipe adverse, si tu veux éviter les balles, tu vas enfin être amené en fait à tomber sur le Titan ami, et du coup ça peut être compliqué de se battre.
Bah, après justement après il y a tout, mais c'est là encore, il y a dans cette situation là, enfin moi ce que je fais en général, c'est qu'à ce moment-là, je sors en fait du Titan, ce qui fait qu'il va rester en pilotage automatique. Ouais. Et tu peux à côté te mettre sur un immeuble et prendre ton arme anti-titan et les shooter à côté. Il y a toujours une solution, toujours un endroit où tu peux aller, même quand t'as en général, quand t'as pas trop de titans, effectivement, dans une ruelle, il y a toujours un moment où tu peux faire, parce que le titan a deux dashs, et tu peux aller justement, par exemple, te mettre à l'abri pour
voilà,
regagner.
C'est ce que j'avais demandé, parce que depuis tout à l'heure vous parlez du gameplay du titan, mais pour moi c'est pas du tout clair de comment ça joue en fait, parce que moi, en regardant les vidéos, j'avais l'impression que le titan était très lourd en fait.
Pas tant que ça.
Très pâteau, et en fait, de ce que je comprends, alors il y a des dashs un peu comme dans n'importe quelle ligne de méca où d'un coup il parle en speed sur le côté ou ce genre de choses. Est-ce que le gameplay reste quand même un peu speed en titan?
Oui. Moi, j'ai été surpris de la vitesse du Titan, en fait. Ouais. Parce que, bon, forcément, il est peut-être plus lourd, mais il fait de plus grandes enjambées. Le Titan peut aussi courir. Alors, bon, forcément, il va pas être aussi rapide qu'un pilote. Il peut pas sauter, par contre, attention. Et ce qui peut vous faire éviter un missile, c'est les deux dashs qui vous sont rendus disponibles. Par contre, la vitesse de régénération de ces deux dashs est très longue, donc faire très attention à ça.
Donc faut bien les gérer, voilà. Faut pas en abuser. Voilà. Voilà.
Dans la bêta, il y a trois types de titans qui sont équipés en fait de trois armes principales différentes. Bon voilà, c'est donc soit le lance-roquette, un espèce de gros fusil de sniper ou la mitrailleuse. Et à savoir que le titan, c'est se joue en fait. Enfin, quand vous êtes face à un titan, il y a vraiment un truc assez crucial, c'est l'esquive et le bouclier. Parce que vous pouvez, en fait, avec le bumper gauche, vous utilisez un bouclier qui fait qu'il stoppe, en fait, toutes les balles qui arrivent devant lui, que ça soit des roquettes, des balles ou des missiles. Et ensuite, il les garde et il les projette en face de lui. Évidemment, c'est une capacité qui se régénère lentement, mais ça peut être assez tactique parce que forcément, le titan qui est en face de vous peut utiliser exactement la même chose, ce qui fait que on peut avoir une espèce de jeu de flipper. C'est ça. C'est exactement du ping-pong et ça peut être cette capacité peut être assez dangereuse si évidemment vous avez envie de relancer les missiles vers votre adversaire, si lui a encore du bouclier. Il peut vous le renvoyer à la face, donc faire très attention à ça. Donc c'est, je trouve que c'est assez intelligent. Je suis assez surpris en fait d'à quel point le Titan peut être aussi intéressant en fait en termes de gameplay.
En plus, peut y avoir une coopération entre des équipés. Par exemple, il y en a, il bloque le premier missile, il renvoie.
C'est ça.
L'autre envoie, sauf que t'as le coéquipier qui arrive juste à ce moment-là devant, tu vois, qui renvoie le missile. C'est pas intéressant,
Il faut savoir que les pilotes sont pas en reste parce qu'ils ont évidemment une arme anti-titan. Mais quand il y a une grosse bataille de titans, le pilote, forcément, il est quasiment invisible, en fait, parce que toi, quand t'es pilote de titan, ce que t'as envie, c'est vraiment de tuer le titan qui est en face de toi. Donc forcément, le pilote, lui, se cache et peut vraiment faire la différence, en fait, dans une bataille de titans, puisque, par exemple, il se met derrière et il tire son anti-titan derrière, comme ça, sans se faire voir, et ça peut être, du coup, assez coopératif.
Justement, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que dans un environnement urbain, c'est pas trop galère de jouer un titan? Parce que je veux dire, moi, là, comme ça, ça m'est assez facile, en fait, de se planquer, d'arriver derrière, et voilà, t'es mort.
Ouais.
Est-ce que c'est pas trop facile, justement, de buter un titan dans un environnement urbain?
Disons que t'as des endroits qui sont très, très, très dangereux quand t'es en titan. Notamment des carrefours, des ruelles, où il y a des immeubles en face, à côté. Donc voilà, faut faire très attention à ce qu'on fait quand on est en titan.
Ou du coup, faudrait justement compter sur ses équipiers pour qu'ils compensent ta faiblesse dans ces environnements-là, quoi.
Ouais. Mais dans l'environnement humain, urbain, ce qui est intéressant, c'est aussi que tu as une bonne visibilité justement sur les fenêtres ou sur les toits d'immeubles. Donc à côté, si tu te prends un missile, t'as toujours aussi, lorsque tu te prends le missile, la direction d'où ça part, donc tu peux te tourner et éventuellement tuer très facilement le pilote qui t'a balancé les missiles anti-titans.
Et du côté des classes, vous parliez tout à l'heure des classes des titans, est-ce que du côté des pilotes, ça s'est varié ou c'est classique?
En fait, les classes sont liées à de l'équipement. Donc tu as on en a vu trois, je sais pas si t'en as débloqué d'autres.
Non, c'est ça, il y en a trois pour l'instant. Donc t'as évidemment le classique avec le fusil d'assaut, les grenades, celui qui a le fusil à pompe et le sniper. Après c'est ce qu'il y a pour l'instant, même au niveau du titan, comme on l'a vu, il y aura beaucoup plus de classes, donc notamment le Strider que j'avais bien aimé, là, un peu plus fluide. Donc après, pour ce qui est, même avec ce qui est actuellement, franchement, là, même ce soir, je pense que je vais y retourner avant que la bêta s'arrête. Je crois que c'est le mardi 18 en fait qu'elle s'arrête.
C'est ça.
mardi.
À savoir qu'il y a un système assez sympa, c'est quand la partie est terminée,
ah ouais, c'est, ça, c'est pas mal
en fait
aussi.
L'équipe qui a perdu doit être évacuée. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de je sais pas un pélican comme dans Halo en fait qui vient vous chercher. Il se pose à un endroit. L'équipe qui a perdu doit absolument passer dedans et ensuite attendre le décollage. Pendant ce temps-là, l'équipe qui a gagné doit faire en sorte d'intercepter les pilotes ou les titans qui ont survécu, les tuer. S'ils ont pas réussi à les intercepter, il leur reste une option, c'est détruire l'avion. Ce qui rajoute en fait un espèce de petit sentiment d'urgence en fait dans le final de.
Ouais, mais du coup, si t'arrives pas à détruire le pélican, il se passe quoi?
C'est
match nul.
Il se barre. Non, c'est juste en fait c'est juste un petit gain d'XP. Ouais. C'est pour par exemple, je te donne un exemple. T'as été bien dans ta partie, t'as perdu, t'es un peu frustré. Mmh. À côté, il y a quand même ce petit plus qui va te donner de l'XP et le fait de pouvoir te barrer. C'est-à-dire que t'as à peu près une minute trente pour arriver sur effectivement
la zone d'évacuation,
le vaisseau, la zone d'évacuation et le vaisseau. Entre-temps, donc ensuite ça te donne, ça te met une petite animation, donc ça te montre que tu te barres de la planète, mais ça rajoute juste en fait de l'XP pour toi qui a réussi à t'échapper, mais ça ne joue pas sur la défaite ou la victoire d'une partie.
Ça ne joue pas en ta défaveur si tu as gagné et que tu réussis pas à les intercepter.
Voilà.
En revanche, si tu arrives à détruire le vaisseau, ça te donne de l'XP et ça en donne pas à ceux qui n'ont pas survécu. Voilà, donc je trouve que c'est un petit mini-jeu sympa. J'avais pas pensé à ça et je trouve que c'est plutôt cool d'avoir ajouté ça. Dernier élément qu'on a vu sur cette bêta, à partir du niveau 7, on débloque ce qu'ils appellent des burn cards. Ces cartes en fait, tu les débloques aléatoirement en fait dans tes missions, dans tes parties
ouais,
multijoueurs.
C'est en réussissant en fait des petits challenges, genre tu une centaine de bots, de spectres ou ce type de choses.
Et en fait, tu choisis de les activer et elles sont valables sur une vie pendant une partie multijoueur et elles te alors si je me souviens bien, elles te donnent en fait un atout supplémentaire. Donc par exemple, tu vas taper plus fort, ton titan va être plus résistant, etc., etc.
Oui, ou sinon t'as même, il y a pas mal d'armes aussi. Oui. Par exemple, tu peux avoir une arme un peu plus puissante. Enfin, il y a pas mal d'avantages, que ce soit au niveau des armes ou des capacités.
Donc ça peut être assez intéressant. Seulement si ça déséquilibre pas les parties, en tout cas. Enfin, j'espère. Voilà.
Bon, quoi qu'il en soit, je pense que vous validez le choix 6 contre 6, apparemment, de ce que j'entends.
Ouais, ah oui, carrément.
Parce qu'en plus de ça, en fait, on n'a pas vraiment l'impression d'être juste 12 sur la map, puisque il y a vraiment des IA un petit peu partout. Qui sont pas forcément hyper intelligentes, évidemment.
Ah oui, très très faible, hein, mais ça donne un sentiment, en tout cas, de...
En tout cas, t'as l'impression d'avoir du nombre sur la carte, et pour les joueurs un petit peu plus faibles, j'ai envie de dire que c'est le meilleur moyen d'évoluer dans les niveaux. Parce que forcément, si, enfin, tu vas avoir plus de facilité à tuer des grunts, donc les IA de base, que des pilotes. Et
elles rapportent de l'XP quand même, les IA, ou
moins que les pilotes, mais elles rapportent de l'XP. Après, t'as des IA un petit peu plus puissantes, c'est les spectres qui sont capables de, qui ont des armes capables de descendre des titans. Donc, faire très attention à eux et à savoir que vous pouvez en fait hacker les IA adverses, les spectres, pour qu'ils travaillent pour vous. Donc ça peut être assez intéressant. Et il y a des animations assez crédibles, notamment. Il m'est arrivé assez souvent de courir en fait dans un immeuble et de voir deux IA en train de se battre l'une l'autre et au corps à corps. Et c'est assez cool. Je trouve que ça rajoute un petit peu d'historique au parti. Je trouve ça assez sympa.
Bref, en gros, vous allez signer. Alors, est-ce que le jeu, vous pensez que vous le prendrez ou pas?
Ah, là, c'est autre chose, parce que 60€ pour...
Oui, mais il sortira forcément sur PC, déjà, donc ça coûtera moins cher.
Pour l'instant, c'est à 60 euros. Donc, franchement, je vais attendre parce que là, je pense que je vais y passer. Là, j'ai dû faire un bon 5-10 heures sur la bêta déjà. Donc après, je pense que je vais y passer encore un petit moment jusqu'au 18. Donc, je me serai déjà bien rassasié et j'attendrai que ça baisse un peu. Parce que pour du multi comme ça, surtout que c'est... Voilà, 60 euros, c'est encore un peu beaucoup. À 35, j'achète, mais 60, c'est encore un peu beaucoup.
Moi, honnêtement, je vais profiter de la Xbox One de mon frère pour pouvoir y jouer. Et bon, pour l'avoir vu, je pense qu'il a adhéré au jeu. Donc, à mon avis, il va l'acheter Day One, mais bon, ça, c'est... je sais pas, on verra. Mais oui, moi, je pense que si j'avais une Xbox One, parce que bon, mon PC le fera pas tourner, mais ouais, si j'avais une Xbox One, je pense que je l'achèterais. Donc, voilà.
Il serait temps que tu changes ton PC, Mandrin. Hein.
Oui, ouais. Il commence vraiment à me tomber dans les bras, là. C'est quand ça me saoulait.
Ok, donc on aura bien compris, vous avez kiffé votre as, voilà.
Ouais, ça déchire.
Une fois n'est pas coutume, on va parler d'une exposition, l'exposition Star Wars Identities, qui a lieu en ce moment à la Cité du Cinéma, qui se trouve à Saint-Denis, donc bon, très très proche de Paris. C'est la Cité du Cinéma qu'a créé Luc Besson. Et donc prend place une exposition Star Wars qui a pour thème en fait de trouver quel personnage de Star Wars vous êtes. Alors comment ça se passe ? Déjà, à l'entrée, on vous donne un bracelet électronique en fait, qui va garder en mémoire tous les choix que vous allez faire dans le parcours de l'exposition. On vous donne aussi un tour de cou qui est en fait lié à un écouteur qu'on vous donne et que vous mettez à l'oreille. Ce tour de cou là, en fait, il permet en fait au spot de l'exposition de voir où vous en êtes et de diffuser en fait dans votre oreille les instructions de l'exposition. Donc bon, déjà on part sur une exposition un petit peu technologique, hein, quelque chose qui se fait pas forcément partout. Et l'idée en fait, c'est que vous avez 10 salles, 10 modules qui vont vous demander en fait quel genre de personne vous êtes. Donc par exemple, la première salle, c'est va vous demander en fait quelle race de l'univers Star Wars vous voulez être. Donc vous avez des Ewoks, des Wookiees, des...
Attends, il y a des gens qui disent Ewoks.
Des Twi'leks. Tu seras surpris de voir le nombre d'Ewoks qui y a, ouais. Des humains, évidemment.
Il faut les stériliser tout de suite. Ça va pas être possible.
etc. Ensuite, on va vous demander un petit peu votre rapport à vos parents, des choses comme ça, jusqu'à ce qu'on vous demande concrètement le métier que vous souhaitez exercer. Et là, évidemment, tout le monde dit « je veux être un chevalier Jedi ». Ce qui fait que, bon, au bout d'un moment...
Non, non, moi je veux être chasseur de primes.
Donc il y a... voilà, mais il y en a très peu d'assez intéressants. Il y a les chasseurs de primes, les chevaliers Jedi, et le reste, c'est genre sénateur, fermier, commerçant, des trucs dans ce genre-là. Bon, et ce qui fait qu'en fait, on se rend compte que très rapidement, les gens... choisissent tous à peu près la même chose. Sur un module, on te demande la force, enfin la puissance de la force en toi, et c'est très rare que quelqu'un dise qu'elle est inexistante, quoi. Pour être honnête. Donc, ce qui fait qu'en fait, dans ce parcours-là, tu as ces instants de choix, ces questions-là. Et bon, heureusement, il y a quand même des choses à voir dans cette exposition. Tu vas voir donc les costumes de certains acteurs, surtout sur la trilogie originelle, les donc 4, 5, 6. Tu vas voir C3PO en vrai, R2D2, des croquis préparatoires, de l'antre de Yoda par exemple, et tu te rends compte que Yoda, à l'époque des premiers dessins préparatoires, c'était vraiment un nain de jardin. Et c'est très très étrange. Tu vois des trucs comme ça, et puis tu vois Yoda, la marionnette de Yoda en face de toi, et tu la compares à ses croquis préparatoires, et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que ça a changé? Heureusement que c'est comme ça. Et, donc c'est plutôt cool.
Qu'est-ce que t'as contre les nains de jardin, d'abord?
Mais, non, mais vraiment, vraiment un nain de jardin, quoi. C'est genre, le petit chapeau rouge, la barbe, les oreilles de lutin et tout. Mais vraiment le nain de jardin. Vous penserez à moi si vous voyez ce croquis, si vous allez à l'exposition. Donc voilà, on a des trucs, vraiment des objets en dur qui sont devant vous. Alors évidemment, vous n'allez pas les toucher, hein, normal. Vous avez par exemple aussi le podracer d'Anakin Skywalker dans l'épisode 1 en taille réelle. Ce qui est assez impressionnant. Le passage qui m'a le plus touché, moi, c'est les maquettes qui ont été utilisées en fait pour tous les plans des vaisseaux spatiaux, donc le croiseur interstellaire, le marcheur dans la bataille de Hoth sous la neige, etc., etc. Tout ça qui sont au même endroit et tu te dis putain. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ça chez moi.
Là, ça donne envie. Ouais.
Et donc c'est assez sympa.
Et là, tu te rends compte que tu n'as pas la place dans ton appartement.
Exactement. mais tu te rends compte qu'il y a certaines maquettes qui sont vraiment très très petites, notamment le marcheur dont je viens de vous parler, c'est qui doit faire à tout casser, il doit faire 50 cm de long, quoi.
D'accord.
Et c'est assez marrant. Tu te dis, ils ont animé toute la scène avec ça. Et donc c'est assez cool. Et bon, évidemment, quand on est fan de Star Wars, on revient très très vite en enfance face à ces choses-là. Donc ce qui fait que autant le parcours identité est pas forcément passionnant, parce que moi je m'attendais à ce qu'on ait vraiment accès à un test de personnalité qui vous dise finalement ce que vous êtes. Là finalement, on sait pas ça. On te dit qu'est-ce que tu veux être.
Bienvenue à Jedi Land.
C'est ça. C'est vraiment pas du tout la même chose. C'est-à-dire que à l'époque où on teasait cette exposition, on te montrait un test de Rorschach qui avait la tronche de Dark Vador, et t'avais l'impression que t'allais savoir en fait en fonction de tes traits de personnalité. Quel personnage tu pourrais être. Là, c'est pas du tout le cas.
Déjà, tu vois, quand t'as commencé à parler de l'expo, moi, c'est ça que j'avais en tête.
C'est ça. Et c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je veux vous mettre un peu en garde sur cette exposition. C'est que, en fait, non. On vous demande pas qui vous êtes pour vous dire qui vous seriez dans Star Wars. On vous dit, tiens, voilà les options que tu as devant toi. Les options qui sont tirées de Star Wars. Qui veux-tu être? Donc déjà d'un coup, c'est plus du tout le même concept.
Bah déjà autant jouer à un RPG Star Wars et puis voilà, c'est
voilà.
Bouclé.
et j'ai même envie de dire, je pense que dans un RPG Star Wars, t'aurais un petit peu plus d'options. Donc c'est dommage parce que je pense que il y a la technologie qui marche très bien, il y a le concept, mais ça va pas assez loin en fait. C'est-à-dire que moi j'aurais bien aimé répondre à des questions. Qui mettent un petit peu en place ma personnalité, et que je me rende compte à la fin,
quand
que
je...
t'es Dark Vador en fait.
Que je sais pas, mais
oh merde.
Mais pas forcément Dark Vador, pas forcément un personnage connu, mais avoir tu vois un personnage qui prend forme devant moi et qui finalement me ressemble en termes de personnalité. Parce qu'au final, à la fin de l'exposition, en fait, tu mets ton bracelet sur le hall, en fait, le hall d'exposition, et tu as ton personnage qui s'affiche devant toi.
Non, mais Mordon, tu te rends pas compte, t'imagines tous les mecs qui se retrouvaient avec la gueule de Anakin Skywalker, mais ils se suicident tout de suite.
Mais, donc voilà, en fait, j'aurais aimé arriver au même résultat avec des questions différentes. Et je trouve que voilà, c'est un super concept, mais ça va pas assez loin, malheureusement. Et donc c'est le parcours est sauvé par tout ce qu'on y trouve en fait.
Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que finalement l'explo en elle-même vaut le coup à elle seule, est-ce qu'elle vaut le coup Si on en a rien à secouer du parcours, est-ce que l'explo en elle-même est intéressante?
Franchement, si vous êtes vraiment vraiment fan de Star Wars, je pense que ça vous plaira.
Mais à part, donc t'as dit qu'il y avait des modèles, effectivement, ouais. Grandeur nature, ouais. Des maquettes. Sinon, est-ce qu'il y a des choses ou est-ce que t'as appris de trois trucs ou c'est non. Vraiment uniquement des maquettes?
Tu contemples, en fait, dans cette exposition.
C'est juste de la...
Tu
okay.
N'apprends pas. Il y a des télés qui passent des petits clips, mais en fait, qui te parlent de comment se crée, en fait, l'identité d'un être humain. C'est ce qui n'a rien à voir avec Star Wars. Et du coup, c'est peut-être un petit peu décevant parce que t'aurais peut-être un peu aimé, voilà, de avoir des choses un petit peu plus concrètes.
Les petites brides d'histoire.
C'est ça. Enfin, ouais. Donc évidemment, ces clips-là sont mis en valeur avec des extraits de la saga Star Wars, mais bon, ça va pas très très loin. Donc finalement, je pense que, enfin, moi, si tu veux le simple fait de voir les maquettes et les costumes et je sais pas et C3PO grandeur nature devant moi, voilà, ça m'a tout de suite fait plaisir, si tu veux. Après, faut bien savoir que la place à l'exposition, c'est 20 €, donc c'est pas forcément donné. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que il faut
Parce que là tu vois, tu viens de me dire le prix là.
Voilà. Il faut.
Ouais, moi parce que vraiment si franchement le test de personnalité c'était un peu mieux. Mmh. Enfin, ouais, je sais pas pour
20 €. Ouais, moi, ouais, quand même quoi.
Voilà, c'est en fait, si tu veux, si le concept avait été
c'est le prix de Banish.
fait jusqu'au bout. Ah oui, il sort bientôt d'ailleurs. Si le concept avait été mis en place jusqu'au bout, je pense que 20 € ça aurait valu le coup. Là malheureusement, 20 € c'est un peu cher quand même pour voir juste des objets en fait. Donc c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé vous dire d'y aller les yeux fermés, mais bon, il faut savoir où vous allez, sachant que derrière, évidemment, il y a la boutique de souvenirs qui là encore est un peu décevante, parce que grosso modo, les seules choses intéressantes que vous trouverez, c'est des t-shirts exclusifs de l'exposition, et le reste c'est des bouquins d'artwork, notamment de Star Wars The Old Republic. D'ailleurs, ça m'a fait marrer de le trouver là.
Ils ont dégagé des éditions collector sérieux.
C'est exactement ça. Et donc voilà, c'est bon. Voilà, je pense que si ça avait été entre 10 et 15 €, je vous aurais dit d'y aller. Maintenant c'est 20 € et pour un adulte, hein, pour un plein tarif. Donc ça, c'est peut-être un peu cher, surtout si vous vouliez vraiment qu'on vous dise quelle identité de Star Wars vous avez. Voilà.
Ouais, et puis faut quand même contempler des objets, quoi. Je veux dire, c'est pas.
Il y a des objets, il y a des artworks, il y a des croquis préparatoires. Alors c'est sûr que si vous êtes pas du tout dans le style, c'est même pas la peine d'y penser.
Ok, voilà. Bon. C'est bon, je propose qu'on s'arrête là.
Yes,
tout à fait.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, en espérant qu'on n'aura pas eu les couilles qu'on a eues la semaine dernière, ouais. Parce que entre la perte de connexion internet de Dwayne, enfin, c'était un peu le bordel. Ouais. Donc désolé, mais bon, des fois, on peut pas faire comme on le voudrait, n'est-ce pas ? Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.
Ciao.
Salut.